What's up Europe?
Quelle novità in Europa?
Che passa Europa?
Quelle novità Europe?
What's up Europe?
What's up Europe sur Sensation, en partenariat avec Café Babel.
C'est un fait désormais bien établi dans le monde si globalisé dans lequel nous vivons. Affaires extérieures et commerce international sont étroitement liés. Et en Europe, encore plus qu'ailleurs, peut-être près de la moitié du PIB de l'Union européenne repose sur ses exportations de biens et de services. Ce sont 36 millions d'emplois qui en dépendent directement, affirme la Commission européenne. L'Union, à l'heure actuelle, est engagée dans 45 accords commerciaux à travers le monde. L'avantage de ces chiffres, c'est qu'ils pèsent lourd dans la balance. L'UE est un acteur incontournable pour les investisseurs et pays du monde entier. Elle est même la première puissance commerciale au monde. Le problème, c'est qu'à trop dépendre du commerce, on peut perdre aussi du poids politique. On l'a vu récemment avec la Turquie, difficile de hausser le ton face à un président turc qui n'hésite pas, lui, à attaquer verbalement les dirigeants ou à sortir les navires de guerre en Méditerranée. On l'a constaté aussi avec la crise de la Covid-19. L'Europe est tellement ouverte qu'elle ne produit plus certains biens essentiels comme des masques sur son territoire. Elle est devenue dépendante du continent asiatique sur le sujet. Mais les choses changent visiblement. La vieille Europe souhaite redevenir souveraine, n'hésite plus à dire de la Chine qu'elle est un rival systémique, ne se fait plus d'illusions aussi avec le nouveau président des États-Unis et reste intransigeante face au Royaume-Uni. Alors l'Europe ne serait-elle plus si naïve et voudrait-elle se forger un destin politique à la hauteur de sa puissance supposée? Bonjour à tous et bienvenue dans What's Up Europe, cette émission enregistrée depuis le Parlement européen de Bruxelles, vous est proposée par la rédaction de Café Babel et Radio Sensation. Et pour parler de tous ces vastes sujets, commerce international et relations extérieures, nous sommes avec Emmanuel Morel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputé français, Emmanuel Morel, membre de la gauche unitaire européenne, la GUE, au Parlement européen, ancien membre du PS. Vous avez fondé l'an dernier, en 2019, votre parti, la gauche républicaine et socialiste.
Jusque-là, tout est exact.
Tout est bon. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que l'Europe n'est plus si naïve comme on avait l'habitude de le dire et qu'aujourd'hui, elle décide de changer sa façon de faire et de hausser le ton? Et est-ce que, si vous partagez ce point de vue-là, est-ce qu'il faut dire merci à Donald Trump et à Xi Jinping qui se sont déclarés une guerre commerciale et qui ne mettent pas, on va dire, de côté l'Europe dans cette guerre?
Non, je crois que comme vous l'avez très bien dit, la prise de conscience, elle naît surtout à l'issue de la crise du Covid. Parce qu'on s'est retrouvé dans un état de quasi-panique en se rendant compte que l'Europe, si puissante soit-elle, était incroyablement dépendante d'autres continents, et notamment le sud-est asiatique, surtout pour des produits absolument essentiels. Produits sanitaires, les masques, le gel. Souvenez-vous du début, quoi, hein, le début de la crise. Et donc, chez les dirigeants européens, même les plus zélés par rapport au commerce, parce que comme vous l'avez très bien dit, pendant des décennies, le message de l'Union européenne, c'était « il faut tout faire pour que le commerce s'épanouisse sans entrave ». Et il y avait une forme, oui, de... Je ne dirais pas de naïveté.
C'est dans sa genèse historique.
Exactement, vous avez raison. Quand on a créé l'Europe, l'idée, c'était que le commerce, le doux commerce, comme on disait au XVIIIe siècle, aller régler les problèmes, tous les problèmes politiques.
Apporter aussi
la paix, la prospérité, enfin, on connaît tout ça. Et évidemment, on était un certain nombre déjà depuis longtemps, puisque moi, c'est mon cas depuis mon premier mandat en 2014, à alerter la Commission, les dirigeants européens, sur une forme de naïveté qui consistait à considérer que le commerce, c'était pas de la politique. Mais le commerce, c'est de la politique, c'est de la géopolitique, c'est des relations extérieures.
Et les choses
et par définition,
chez les dirigeants européens.
Alors justement, on va y venir. Et donc, je finis juste mon idée que par définition, il y avait aussi du rapport de force dans le commerce. Est-ce que les choses changent? Les discours changent. Oui, bien sûr. Madame von der Leyen, elle dit qu'il faut parvenir à un concept un peu flou, à une forme d'autonomie stratégique ouverte. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais il y a ça. Il y a un certain nombre de propositions qui sont faites aujourd'hui, l'ajustement carbone aux frontières, qui participe de cette prise de conscience qu'il faut protéger les entreprises européennes de la concurrence déloyale.
Et qui permettrait de monter le prix des douanes, enfin de plus alors, taxer les prix qui seraient polluants.
Oui, on est en train de travailler, hein, c'est pas fait encore, mais l'idée, ça serait évidemment aux frontières de l'Europe de surtaxer les produits polluants. En fait, c'est un peu ça l'idée. Même si sur le débat aujourd'hui, il y a une vraie inconnue sur l'issue. Bon, donc les discours, en effet, changent. Mais la réalité, pour l'instant, elle n'a pas changé. Je vous donne un exemple. On a ces discours très généreux de M. Macron ou de Mme von der Leyen sur l'Europe qui protège, mais on continue, comme si de rien n'était, à signer, à négocier des accords de libre-échange avec des pays qui sont à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a une négociation avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande, avec l'Indonésie,
le aussi.
Avec le Mexique. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de proposer...
On a suspendu, par exemple, les discussions avec le Mercosur. Emmanuel Macron a répété,
c'est pas suspendu. L'accord, il est fait, je vous signale.
L'accord, il est fait, mais...
C'est le processus de ratification.
Il n'est pas entré en vigueur.
Emmanuel Macron a bien insisté
sur le fait qu'il ne le ferait pas, en tout cas à court terme.
Ne faisons pas d'Emmanuel Macron une sorte de héros du protectionnisme européen. Ça n'est pas le cas. Il n'y a pas que la France. Il y a un certain nombre de pays qui ont dit « c'est pas possible de signer un tel accord » au moment où l'Amazonie, elle brûle. On s'apprête à échanger avec des pays, notamment le Brésil, qui est dans une situation de surproduction d'huile de palme, de soja, au détriment d'un des poumons de la planète. Donc c'est cette prise de conscience. C'est pas que la France, il y a d'autres pays qui sont là-dessus.
Pour vous, la prise de conscience a quelques mois, visiblement, surtout la Covid-19. Choses n'avaient pas tout de même changé, avec aussi Donald Trump qui a renversé, on va dire, d'un coup de main toute la relation presque transatlantique, historique, entre les deux continents. Et à cet effet-là, est-ce que, comme certains, vous vous réjouissez de l'élection de Joe Biden à la tête des États-Unis?
Moi, je pense que l'élection de Joe Biden ne va rien changer en matière de politique commerciale. La seule chose que ça peut changer, peut-être, c'est que les États-Unis signent l'accord de Paris sur le climat.
Il s'est engagé à cela?
Attendons de voir. Mais sinon, sur la politique commerciale, non seulement ça ne va rien changer, mais il ne faut pas croire que les mesures protectionnistes aux États-Unis ont commencé avec Donald Trump. Elles ont commencé dès Obama, même avant. Le principal problème qu'on a aujourd'hui avec les États-Unis, outre la question très épineuse de l'extraterritorialité du droit américain, qui est quand même pas rien, c'est-à-dire que les États-Unis décident si oui ou non on a le droit de commercer avec tel ou tel pays.
Par exemple, quand on commerce avec l'Iran,
c'est par exemple, ils disent,
on a des sanctions,
si une entreprise européenne commerce avec l'Iran, nous on n'est pas d'accord, on vous sanctionne. C'est quand même un cas de figure inouï. Pareil avec Cuba, mais il y a des choses plus graves. Aujourd'hui, il y a un projet européen de pipeline avec la Russie qui s'appelle Nord Stream. Quoi qu'on pense du projet, c'est un projet sur le sol européen. D'accord ? Eh bien, les Américains disent toute entreprise qui aide ce projet sera sanctionnée par nous parce que nous, on n'est pas d'accord. Pourquoi on n'est pas d'accord ? Parce qu'on entend vendre aux Européens plus de gaz, et notamment le gaz issu de la fracturation hydraulique, ce que nous refusons en Europe. Donc ça, c'est quand même... Et ça, ça ne changera pas avec M. Biden. De la même façon, les Américains ont une politique très pragmatique qui consiste à dire, si on a un secteur qui est en difficulté, on surtaxe les produits à l'entrée de nos frontières. Ils l'ont fait il y a encore quelques semaines avec l'acier. Acier européen, plus 25%. Acier chinois aussi, plus 30%.
Ce qui veut dire que même avec Joe Biden, les Américains vont considérer l'Europe comme un objet politique avec peu de poids, finalement.
Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas qu'on a peu de poids, parce que les relations transatlantiques, d'un point de vue commercial, non seulement elles existent, mais elles sont importantes pour les États-Unis.
C'est notre premier partenaire économique
oui, tout à fait.
Au monde. C'est 744 milliards d'euros en 2019 d'échanges.
Bien sûr, ce qui n'est pas colossal, mais ce qui est important... Mais par contre, ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'on est dans une relation totalement déséquilibrée. C'est-à-dire que les Américains font ce qu'ils veulent, décident de ce qu'ils veulent.
On exporte beaucoup plus qu'on importe avec les Américains.
Mais quand je dis déséquilibré, je parle d'un déséquilibre politique. Enfin, je prends l'exemple de l'acier. Trump, il dit, ça ne me convient pas, la situation actuelle. Je taxe de 25%. Et nous, on fait quoi en échange ? On leur dit, excusez-nous, on vous fait une fleur sur un certain nombre de biens. On en parlera peut-être. C'est l'accord qu'on a discuté au Parlement européen il y a un mois.
On peut en parler tout de suite. C'est l'accord sur le homard.
Exactement.
C'est un mini-deal qui permet de diminuer les droits de douane sur certains produits entre les deux puissances, notamment, d'où le nom, les homards américains.
C'est vrai.
C'est 168 millions d'euros qui sont en jeu côté européen. Je vous propose d'écouter d'ailleurs... une collègue à vous, Marie-Pierre Védrenne, qui est au Parlement européen, au sein de la Commission commerce international, aussi comme vous. C'était après son vote, elle, en faveur de ce mini-deal fin novembre.
Ce mini-deal a son utilité, mais doit être l'exception. La politique commerciale ne se résume pas à la libéralisation tarifaire, mais doit aller de pair avec la promotion des droits de l'homme et la lutte contre le changement climatique. Alors l'élection d'un démocrate à la Maison-Blanche laisse imaginer que le défenseur du multilatéralisme va revenir à la table des négociations. Toutefois, ce retour ne présage rien de l'issue de nos échanges. Alors ne nous berçons pas d'illusions. Nous ne pouvons pas tout attendre des États-Unis et devenir le terrain de jeu du conflit sino-américain. L'Union européenne doit défendre un commerce basé sur des règles adaptées et respectées par tous.
Visiblement, votre point de vue est partagé par Marie-Pierre Védrenne, qui est du groupe Renew, donc pas forcément votre tendance politique, ce qui veut dire que personne ne se fait d'illusions, et ce qui veut dire aussi que ce fameux sujet de traité transatlantique qui avait soulevé les sociétés civiles, qui avait beaucoup occupé aussi les médias il y a 3-4 ans, que Donald Trump avait notamment décidé d'arrêter sur des questions de protectionnisme, ne reviendra pas sur la table avec Joe Biden.
Vous voyez, c'est très intéressant. Madame Védrenne, en effet, elle fait un constat qui est proche du mien, qui est de dire qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Mais qu'est-ce qu'elle fait à la fin? Elle vote quand même l'accord. Et c'est ça la différence qu'on a. Moi, je dis, si on ne se fait pas d'illusions...
Plus d'accord avec les Américains.
Non, je ne dis pas ça. Je dis, il faut entrer dans une phase de négociation et de rapport de force. Mais commencer par leur faire un cadeau. Parce que là, je vous rappelle quand même que c'est... En gros, les
États-Unis... C'est principalement avantageux pour eux, c'est
bien sûr.
Dit
en fait, en gros, les pêcheurs du Maine ont protesté de façon considérable parce qu'il y avait des tensions commerciales avec l'Europe. Or, c'est là qu'ils exportaient le plus. Et nous, on leur dit, bon, OK, finalement, on vous fait une fleur... Sachant que nous aussi, on a des pêcheurs. Et moi, je pense aux pêcheurs irlandais et bretons qui vont être défavorisés par cette décision. Mais surtout, ce que je ne comprends pas dans la logique de Mme Védrenne, comme dans la logique de M. Macron, c'est de dire on ne se fait pas d'illusions, on sait que ça va être dur, mais on commence la négociation par faire une fleur. Au même moment...
Ce n'est pas du tout intéressant pour les Européens, ce deal.
Mais non, parce qu'au même moment, M. Trump, il taxe l'acier européen. Donc à un moment, il faut que ça soit gagnant-gagnant.
Il y a des produits aussi qui voient leurs tarifs douaniers baisser, des produits européens en direction des États-Unis, des briquets notamment, je crois.
Voilà, c'est quand même assez marginal. Donc là, on ne parle pas de grande masse, mais moi, ce que je vois, c'est le geste. Le geste, c'est un geste d'apaisement de la part des Européens. Ça pourrait se comprendre si en face, on a des partenaires qui sont aussi pour jouer l'apaisement. Ce n'est pas le cas.
Alors dans cet extrait, Marie-Pierre Védrenne parle aussi... Enfin, elle dit qu'il ne faut pas être le terrain du jeu du conflit sino-américain.
Ça, c'est
sûr.
On
vient d'évoquer la relation avec les États-Unis. Évoquons maintenant celle avec la Chine, éminemment plus complexe.
Oui.
Quelles sont les marges de manœuvre aujourd'hui des Européens pour durcir le ton face à la Chine, notamment pour rapatrier des industries en Europe, puisque c'est la volonté nommée par les décideurs européens, et Ursula von der Leyen, le 16 septembre dernier, lors de son discours sur l'état de l'Union, a parlé d'un partenaire de négociation. Jusque-là, tout va bien. Un concurrent économique et un rival systémique. Là aussi, le ton change. Mais on se demande, là aussi, où sont les marges de manœuvre des Européens? Est-ce que vous en voyez, vous?
Y a plein de marges de manœuvre.
Comment on peut mettre la pression sur la Chine aussi pour qu'elle respecte, par exemple,
il faut quand même arrêter...
des règles environnementales, les droits de l'homme?
Il suffit de mettre en place des mécanismes de protection. Il y en a qui existent. J'espère que le CBAM, la taxe d'ajustement carbone, elle verra le jour en 2021. Ça sera un premier moyen de pression sur la Chine.
Dès l'an prochain, vous y croyez?
En tout cas, le vote, la mise en place devrait intervenir en 2022-2023. Il y en a d'autres. Par exemple, il faut muscler le contrôle des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques européens. Aujourd'hui, les Chinois investissent, c'est le cas en France, mais dans plein d'autres pays européens, dans des secteurs éminemment stratégiques. Les ports. Les aéroports, vous vous souvenez de l'aéroport de Toulouse et de comment ça s'est fini. Chez nous, par exemple, les terres agricoles. Tout ça, mais aussi, on le sait moins, dans des secteurs stratégiques, liés à la défense, liés à la sécurité, liés à l'informatique. Et là, les Européens, ils ont un devoir de réagir. Madame Merkel l'a fait très récemment, il y a 2 jours, elle a mis son veto. Donc vous voyez que la politique, elle a encore son rôle à jouer. Elle a mis son veto parce que les Chinois s'apprêtaient à mettre la main sur un secteur stratégique qui était lié à la défense. Nous, en France, on a un outil qui s'appelle le décret Montebourg, qui avait été fait voter par M. Montebourg quand il était ministre de l'économie et des finances, qui n'est pas suffisamment utilisé, mais qui est très important parce qu'il permet de préserver l'essentiel pour les Français. Moi, je propose que ça soit le cas au niveau européen. C'est totalement possible, il faut la volonté politique. Mais la volonté politique, pour l'instant, on ne l'a pas beaucoup, parce que, cher monsieur, quand on parle de nos relations avec la Chine, je vais vous donner un exemple. Les produits chinois sont très souvent contrefaits. La contrefaçon, c'est des milliards d'euros qui sont détournés pour les entreprises européennes. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Comment on lutte pour ça? Comment on s'organise? Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. La Commission m'a répondu une fois, là, la nouvelle Commission, en disant on va essayer de trouver un système. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui est fait. Vous voyez bien que là, c'est un enjeu colossal. Avoir une relation adulte avec la Chine, mais le mot-clé avec la Chine, c'est simple, c'est la réciprocité. Je vous donne un exemple. Les marchés publics chinois aujourd'hui pour les boîtes européennes, c'est quasiment impossible parce qu'ils ont des règles qui font que c'est pas possible. Et ben nous, on doit faire de même. On doit dire, ben écoutez, si vous nous traitez comme ça, on vous traite comme ça. La question... ça n'est qu'à... Vous savez, les Chinois, moi je comprends, ils ont une politique de puissance, c'est un grand continent. Ils ne comprennent que le rapport de force. Et ben il faut qu'on soit nous aussi capable de construire un rapport de force.
Alors la question est celle aussi, on l'évoquait il y a quelques instants, des droits de l'homme et des valeurs européennes. Écoutez, à ce propos, cette question récoltée par la rédaction de Café Babel, l'Europe semble être face à un dilemme entre commerce et valeurs.
Bonjour, je m'appelle Sharon et je me posais des questions sur le commerce et les droits humains. Après la signature de l'accord RCEP entre 15 pays asiatiques, beaucoup de voix s'élèvent venant d'Asie, venant de l'Union européenne, mais aussi de part et d'autre du monde, disant que l'UE est trop ambitieuse dans ses accords commerciaux, vu qu'elle souhaite inclure les droits humains et des dispositions relatives au travail dans les accords, elle ne serait plus un partenaire commercial attractif. Comment pensez-vous concrètement que l'UE peut améliorer la coopération avec les pays de l'ANAS en matière de commerce, tout en ne renonçant pas à son agenda ambitieux sur les droits humains et sur les conditions de travail. Merci.
Alors un point sur les chiffres avant de vous faire réagir. Le commerce avec la Chine en 2019, c'est 626 milliards d'euros. Deuxième partenaire économique derrière les États-Unis d'Amérique, dont 421 milliards d'importations. Là, pour le coup, la balance commerciale est négative. Comment on joue aussi sur cette question des droits de l'homme avec la Chine? Si on doit muscler le jeu politique d'un point de vue commercial, comment aussi on joue sur cette deuxième corde des droits de l'homme avec la situation des Ouïghours qu'on connaît grâce aussi aux actions du Parlement européen, très peu du fait des États.
C'est vrai.
Est-ce que c'est possible de jouer sur ces deux tableaux en même temps?
Là, il y a deux questions. La première chose, c'est le RCEP. RCEP, c'est quoi? Personne n'en parle en France. Pour ce, c'est quelque chose d'absolument fondamental. C'est la Chine et 15 autres pays. On s'y dit un accord de libre-échange. Donc il y a les pays de l'ASEAN, mais ça va jusqu'au Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande.
Oui, il y a 15 pays en tout. Hein.
Oui, c'est ça. Ça représente 30% du PIB mondial.
C'est le plus gros accord de libre-échange qui ait jamais été signé.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cet accord, il n'y a rien sur les droits de l'homme, il n'y a rien sur l'environnement, il n'y a rien sur les questions sociales. Quel est le problème pour nous? Nous, on a des accords, par exemple, avec le Vietnam et avec Singapour. Qu'est-ce qui me dit aujourd'hui qu'à la suite de cet accord, on ne va pas nous exporter sans droits de douane des produits vietnamiens qui, en réalité, seront made in China? Qu'est-ce qui nous dit que demain, si on signe un accord avec les Australiens, ils ne vont pas nous envoyer des produits qui seront en réalité made in China?
On comprend vos remarques, mais du coup, on fait quoi à court terme, à très court terme? On arrête de commercer avec eux? On ferme les frontières?
De toute façon, attendez, vous savez qu'il faut quand même bien dire à vos auditeurs que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'accord de libre-échange qu'on ne commerce pas. Ça, c'est vraiment l'argument des libéraux qui disent « Ah, mais s'il n'y a pas d'accord de libre-échange, il n'y aura pas de commerce ». Mais ce n'est pas vrai. Il y aura du commerce régulé, c'est-à-dire avec des droits de douane aux frontières, avec des normes, avec des tests supplémentaires. Mais ça ne veut pas dire que le commerce s'arrête.
Mais à court terme, c'est possible.
D'ailleurs, cher monsieur, on n'a pas signé le TTIP avec les États-Unis. Or, vous l'avez dit vous-même, on continue à commercer avec eux. Donc, en fait, il faut sortir de ce dogme, de ce carcan qui consiste à dire que pour commercer, il faut signer un accord de libre-échange. Ça n'est pas vrai. Et de la même façon, aujourd'hui, on parle d'un accord d'investissement avec la Chine. Franchement, compte tenu des conditions actuelles, ça serait absurde de signer un accord d'investissement avec la Chine. On sera perdant à tous les coups. Donc, il faut être prudent. Sur la question spécifique des droits de l'homme, on ne peut pas dire à la fois l'Europe, c'est une référence dans le monde. Elle a un certain nombre de principes à promouvoir. Le droit social, l'environnement, les droits humains, mais dire quand il s'agit du commerce, bon là, pour le coup, là, on laisse de côté. Mais vous voyez bien, la situation des Ouïghours, c'est un exemple parmi d'autres. Mais est-ce que c'est... Parce qu'on pourrait prendre aussi le travail des enfants. Vous trouvez ça normal, vous,
là aussi, d'aller acheter des... Qu'est-ce que peuvent faire les Européens quand on sait que 36 millions d'emplois dépendent des exportations
36 et... millions d'emplois ne
c'est
dépendent pas...
C'est ce que dit la Commission européenne.
Oui, mais attendez.
C'est pas mes chiffres.
36 millions d'emplois ne dépendent pas des jouets chinois qui arrivent en Europe. C'est pas vrai.
Non, mais on sait que...
Moi, je vais
l'argent venu d'Asie permet aussi des investissements en Europe.
Oui, enfin, il y a aussi l'argent venant d'Europe en Asie, hein. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est que dans un sens. Non, mais surtout, je vous pose une question. Est-ce que vous êtes d'accord pour porter un vêtement qui est fabriqué par des enfants? Vous allez me dire non. Ben ça, faut le vérifier.
Donc ça veut dire...
Ça, faut le vérifier. Moi, je suis pas d'accord pour qu'on porte des vêtements fabriqués par des enfants ou dans des conditions de travail détestables.
Vous dites, par exemple, à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent aujourd'hui, qu'il faut aussi qu'eux agissent en peut-être, en, non, pas boycottant, mais en réduisant leur consommation de biens venus d'Asie.
Et alors, il y a deux choses. Il y a ce que nous, on doit faire en tant que dirigeants politiques, et ça, c'est très important, en termes normatifs, en termes réglementaires, en termes de contrôle. Mais il y a la responsabilité des gens. C'est pour ça que moi, je suis à fond pour promouvoir le Made in France, parce que je suis français, mais le Made in Europe aussi. Et je pense qu'il faut préférer toujours un produit... Alors, vous allez me dire, il est plus cher. En réalité, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des objets fabriqués en Asie qui sont de mauvaise qualité et qui, en plus, sont chers. Mais il y a toute une politique publique à mettre en place. Or, ce que je trouve, non pas criminel, mais grave, c'est que les dirigeants européens n'en ont pas conscience. Prendre un exemple très concret. Là, on travaille au Parlement européen. Ou à côté, c'est la Commission européenne.
À Bruxelles, précisément.
Quand ils font des marchés publics, ils ne mettent même pas une clause pour favoriser les produits européens. C'est du délire. Alors, on a déjà les ordinateurs, les téléphones, qui sont rarement made in Europe. Au moins que notre mobilier, les objets autour de nous, le plus possible, fassent confiance aux projets européens. Parce que sinon... Mais qu'est-ce que ça veut dire l'Europe pour les gens? Alors, si on leur explique qu'on n'est même pas capable de défendre nos entreprises?
Il nous reste très peu de temps. On a parlé des États-Unis et de la Chine. Je le sais. Partenaire éminemment important. Parlons d'un partenaire qu'on pourrait dire beaucoup plus à notre taille, si on peut parler de puissance ainsi, la Turquie. Conseil européen a voté des sanctions le 10 décembre dernier, le 11 décembre dernier précisément, qui va ajouter des noms sur une liste. Ça paraît très peu comme sanction par rapport aux actions menées par la Turquie, notamment dans les eaux territoriales européennes. Du coup, là, on se demande que pourquoi, même face à la Turquie, on n'arrive pas à agir alors que certains droits les plus élémentaires sont là aussi bafoués entre deux partenaires de confiance et qui sont là, en plus, géographiquement, beaucoup plus proches?
Non, mais là, on n'est que sur des problèmes politiques. Ce n'est pas un problème commercial avec la Turquie. Ce n'est pas un de nos principaux partenaires. Le problème, c'est que la Turquie est membre de l'Union douanière. Et quand elle appelle au boycott des produits français par la voie...
Il y a quand même 154 milliards d'euros d'échanges entre l'Union européenne et la Turquie.
Non, c'est moins que ça. C'est beaucoup moins que ça. C'est beaucoup moins que ça. Et en plus, franchement, là, on n'est pas du tout sur des questions commerciales. On est sur des questions politiques. C'est que les chefs d'État et de gouvernement ne sont pas d'accord sur la réponse qu'il convient donner aux Turcs.
Et
c'est
pourquoi,
ça, la vérité.
Pour des raisons commerciales.
Non.
Par exemple, l'Allemagne n'a pas intérêt à moins sanctionner la Turquie.
L'Allemagne, c'est des raisons internes et des raisons historiques et des raisons culturelles. Et des raisons politiques. Ce n'est pas du tout pour des questions commerciales. En tout cas, ce n'est pas prioritairement pour des questions commerciales. Quand les navires turcs ont fait de la provoque envers les navires français en Méditerranée orientale, le Conseil, ils n'ont pas été capables de prendre une vraie décision parce qu'ils n'étaient pas d'accord. C'est vrai que les Grecs qui sont directement concernés ou les Chypriotes qui sont directement concernés, ils auront une position par la Turquie qui sera plus dure que, par exemple, les Pays-Baltes. Prenons cet exemple. C'est juste un exemple. Hein. Donc, sur la Turquie, la difficulté, c'est quoi? C'est que moi, je peux comprendre que c'est un grand pays, c'est un grand peuple et qu'ils ont une politique de puissance. Mais on voit bien que Erdogan, il nous teste. Et à un moment, il va falloir que l'Europe réponde parce qu'il y a la Méditerranée orientale, mais il y a aussi ce qui se passe en Syrie, mais il y a aussi ce qui se passe en Arménie, enfin sur le Haut-Karabakh. Si on n'est pas capable à un moment de dire, bon, maintenant ça suffit, alors vous allez me dire, il nous fait la pression avec les migrants, parce que c'est ça en fait.
Oui, parce qu'il y a un accord qui a été passé en 2016.
Oui, un accord un peu bancal.
Turquie se charge en gros des flux migratoires qui viendraient notamment de Syrie. Sur son territoire.
Qu'il fait plus ou moins, c'est surtout qu'on lui verse de l'argent. Hein. C'est plusieurs
6 milliards d'euros.
6 milliards d'euros qu'on lui donne pour gérer ça. C'est un problème colossal, les frontières, mais en même temps, on ne peut pas laisser M. Erdogan nous faire sauter à la corde, alors que c'est quand même l'Union européenne. Donc à un moment, une position de fermeté, mais ça ne veut pas dire, la guerre commerciale avec la Turquie. Ça veut dire juste des rapports un peu francs et honnêtes, comme pour l'instant, on ne le fait pas.
De là la difficulté peut-être à faire de la politique à 27 ou à 28, enfin à 28, ça, 27 peut-être bientôt.
Je ne vous fais pas dire.
Demain, on avait beaucoup d'autres sujets à évoquer,
les
ambitions environnementales, la Grande-Bretagne aussi. Malheureusement, le temps nous manque.
La Grande-Bretagne, on ne sait pas trop où on en est là. Hein.
Merci Emmanuel Morel, on parlera peut-être du Royaume-Uni dans une autre émission.
Merci
d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes membre du groupe de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique au Parlement européen et membre de la commission du commerce international. Cette émission est à retrouver sur les sites de Café Babel et de Radio Sensation, mais aussi sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite au Parlement européen pour un nouveau numéro de What's Up Europe. À bientôt.